Donc moi, je veux vous remercier de votre invitation. Donc pour finir un petit peu de me présenter, donc effectivement, je suis maître de conférence en philosophie sociale et politique, c'est comme ça que je l'appelle. Des fois, je parle d'épistémologie politique aussi, pour montrer le croisement entre les dimensions épistémologiques et les dimensions de philosophie politique. Avec deux. Enfin, donc je suis enseignant à l'école des télécoms d'Evry, qui fait partie du groupe Mines Télécom. Et je suis chercheur au laboratoire de changement social et politique à l'université Paris 7 Diderot. Et donc mes deux grands domaines, hein, un qui est autour de développement durable, décroissance, enfin, toutes ces questions-là, et puis un autre autour, évidemment, en étant au télécom, autour des questions de technologie de l'information, sous le rapport, alors parce qu'c'est un domaine qui est extrêmement vaste, hein, mais sous le rapport relativement précis de leur consommation, de l'impact écologique, matériel, énergétique, compris en toxique, de ces technologies de l'information. Donc je vais en parler un petit peu dans la présentation, hein. Je vais vous faire une petite présentation autour de ces cinq sources. Et dans les exemples que je vais prendre des exemples autour des technologies de l'information. Comme ça fait d'une pierre deux coups, d'une certaine manière. Je vous parle des technologies de l'information et en même temps de cette question de la décroissance. Alors, si on remonte. Alors, première chose, il faut bien, je pense, distinguer la problématique de la décroissance, on en parlait tout à l'heure, qui d'une certaine manière n'est pas nouvelle, hein, au sens où il y a eu un grand nombre d'économistes au 19e siècle qui ont envisagé l'état stationnaire, ou pour Mill, ou d'autres, qui ont, comme Malthus, qui pensaient que la croissance ne durerait pas très longtemps. Faute de progrès technologiques. Donc tout ça existe effectivement depuis longtemps, et j'y reviendrai parce qu'il faut avoir une lecture, je pense, de philosophie politique de tout ça, voir qui est-ce qui est derrière et pourquoi telle ou telle thèse était défendue. Donc à la fois, ce n'est pas nouveau, et en même temps, on voit bien que dans l'espace public, dans les travaux en économie, bon, il y a un présupposé qui est toujours que la croissance, c'est un minimum vers lequel il faut aller pour quel que soit le type de politique économique, que ce soit de droite, que ce soit de gauche. En tout cas, il faut la croissance. Et donc la réflexion sur la décroissance est relativement marginale, en tout cas, enfin, c'est un mot qui circule effectivement, hein, mais il y a assez peu d'auteurs qui s'affichent à côté du terme décroissance, qui dans les années 2000, quand le mot revient, parce qu'il a déjà été prononcé un petit peu dans les années 70, notamment par André Gorz, avec le commissaire européen Mansholt, le Club de Rome qui parlait plutôt des limites à la croissance. Donc il y a eu à ce moment-là toute une réflexion autour de cette question de la croissance, avant que ça disparaisse un peu dans les années 80-90, pour revenir ensuite, pour des raisons un peu différentes, je vais vous donner mon interprétation, donc dans les années 2000. Et dans les années 70, vous connaissez sans doute, d'autres intervenants ont dû en parler, hein, le choc pétrolier, le fameux rapport du Club de Rome qui fait figure un petit peu de précurseur à l'époque, avec déjà des controverses qu'on va retrouver, puisqu'il y a eu des réponses faites au Club de Rome, notamment celle de William Nordhaus. William Nordhaus, c'est un économiste qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qui aurait pu l'avoir, hein. C'est l'un des deux co-auteurs du manuel qui s'appelle Économie, tout simplement, avec Paul Samuelson. C'est un manuel qui, en économie, fait vraiment référence. Et William Nordhaus, dans une réponse au rapport du MIT dans les années 70, dit déjà que ces auteurs de ce rapport se sont trompés, et en particulier, ils ont sous-estimé les capacités de la technologie à trouver des solutions, et en particulier de l'énergie nucléaire. Alors, dans le contexte actuel, c'est ça prête 40, 50 ans après, pratiquement, ça fait. On a le recul sur la prédiction, hein, quand on dit toujours, oui, c'est les gens qui prédisent l'épuisement du pétrole qui se sont trompés, on oublie aussi de souligner toutes les prévisions techno-optimistes qui, elles aussi, se sont trompées. Et Nordhaus expliquait que d'ici quelques décennies, on aurait de l'énergie nucléaire en quantité suffisante pour alimenter les automobiles et tout le reste pendant 100 millions d'années. Je vous invite à regarder l'article, sérieux, hein, où il explique 100 millions d'années. Enfin, il faut quand même être assez. Donc, vous voyez. Comment?
C'est la vérité. Simplement, ça a été brouillé par des contestations indécises.
Ah. On va y revenir. Donc déjà, là, on a déjà cette problématique qui est présente, avec certains contre-arguments qui sont déjà présents aussi à l'époque. On a aussi, dans les années 70, cet auteur qui va devenir assez connu par la suite dans les milieux de la décroissance, qui s'appelle Nicolae Georgescu Rogen, donc mathématicien roumain qui a viré à l'économie et qui théorise la question de l'entropie. Alors, vaste sujet que l'entropie, mais enfin, la logique, c'est de dire que quand on consomme une ressource qui est organisée, eh bien, une fois que cette ressource est désorganisée, il y a une irréversibilité qui se produit. On ne peut pas revenir complètement en arrière. Et donc, il y a une progression de la désorganisation de la matière et donc un sens à l'histoire. Et c'est le cas pour les métaux, c'est le cas pour l'énergie. Je vais y revenir. Mais voilà, donc toutes ces questions sont déjà présentes dans les années 70. Après, ça disparaît un petit peu. Il faut se souvenir qu'il y a donc l'écologie politique qui émerge, les associations, le parti politique Les Verts en 84. L'écologie contestataire ou l'écologie qui remet en cause les sociétés de croissance est bien là. Hein, tous les documents de l'époque en attestent. Mais cette écologie s'institutionnalise. Elle obtient des ministères, hein, en 97 notamment. Et face à cette institutionnalisation de l'écologie, un certain nombre de personnes ressortent le mot décroissance dans les années 70, dans les années 2000, pardon, excusez-moi, un journal qui s'appelle Silence, d'ailleurs, qui est édité à Lyon, avec l'association Casseurs de Pub, et on va voir que ce n'est pas un hasard, sortent un certain nombre de numéros autour de la décroissance et le travail, la décroissance et ceci, la décroissance et cela. Alors, par la suite, donc, on a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à ça. En 2008, nous organisons le premier colloque international sur, donc moi avec Denis Bayon et François Schneider, le premier colloque international sur la décroissance. On en est au cinquième, qui va avoir lieu à Budapest cet été. Le colloque de Leipzig a attiré plus de 3000 personnes. À Budapest, ils ont prévu un petit colloque de 500 personnes maximum, parce qu'ils n'ont pas assez de locaux. Donc c'est une thématique sur laquelle on a maintenant beaucoup de scientifiques, dont des économistes, qui publient, qui travaillent. Et je vous ai fait circuler un petit pavé qui est le vocabulaire de la décroissance et qui est fait en fait par les organisateurs du colloque de Barcelone. Un gros pavé, voilà, il est là-bas, le livre vert, et vous allez voir toutes les thématiques qui sont abordées autour de cette question de la décroissance. Alors je pense pourquoi c'est intéressant la décroissance ? D'abord, c'est intéressant parce que vous allez voir que c'est un vrai enjeu au sens où c'est tout à fait pertinent par rapport à la problématique contemporaine pour plusieurs raisons. Et d'autre part, quand on tire le fil de la décroissance, quand on se dit finalement qu'est-ce que ce serait qu'une décroissance, on tire tout un tas d'enjeux philosophiques, politiques, sociaux, qu'on ne tire pas forcément quand on parle soit de développement durable, soit de croissance verte, soit de croissance inclusive, soit de croissance qui reste des débats qui sont beaucoup moins intéressants sur le plan philosophique, qui restent beaucoup plus bordés d'un point de vue politique et qui, de philosophie politique, et qui sont donc beaucoup moins riches en termes d'échanges. Alors, comme j'avais annoncé, donc en faisant mes recherches sur la décroissance, je pense que j'ai identifié 5 sources principales, 5 lignes d'argumentation, 5 raisons principales pour lesquelles on peut être pour la décroissance. La première, c'est la raison écologique, j'ai appelé ça la raison écologique. La deuxième, c'est la raison économique. La troisième, c'est la raison anthropologique. Quatrième, c'est la raison démocratique. Et cinquième, la raison spirituelle. Donc je vais développer un petit peu chaque fois. Alors il faut bien voir que ces grandes tendances peuvent être indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'écologie peut ne pas s'intéresser à l'économie. Par exemple, on a vu un certain nombre d'associations écologistes s'intéresser à la décroissance en raison de l'impact de la croissance sur les écosystèmes, mais ne pas tellement soucier de la question de l'épuisement des ressources. C'est pas leur angle principal, quoi. Donc c'est pour ça que, comme il était dit en introduction, on voit un certain nombre, une diversité de personnes arriver avec une question sur la décroissance, mais qui parle d'endroits qui peuvent être très différents. Ça explique aussi pourquoi, sur le plan militant des mouvements sociaux ou mouvements politiques, la décroissance, hein, ça je l'avais dit dès le départ à ceux qui espéraient que ça fédère, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, pour la décroissance, on aurait pu dire que ça fédère. Mais moi, dès le départ, j'avais dit, ben non, parce que les gens qui sont là autour du mot obus, parce que ce mot est provoquant à dessein, ils viennent pour des raisons assez différentes, donc ça fera jamais un grand mouvement unifié. Ça va faire travailler une réflexion, ça va faire des prises de conscience, ça va faire diverger des trajectoires, mais ça ne fera pas un grand mouvement politique. Je crois que je ne me suis pas trop trompé là-dessus. On a aujourd'hui plutôt une espèce d'éclatement autour de la thématique de la décroissance, et un éclatement qui traduit aussi quand même une... c'est mon impression en tout cas, parce que moi je fais des interventions sur la décroissance depuis... 2003 ou 2004, donc vous voyez, j'ai un certain recul sur cette question. Au début, quand on venait faire une intervention sur la décroissance, tout le monde disait, mais il faut être fou pour parler de décroissance. C'est qui, c'est fou? C'était le premier réflexe. Et puis après, j'ai eu toute une période avec beaucoup d'interventions dans le domaine de la solidarité internationale, parce qu'ils se rendaient compte que la croissance pour tout le monde, ça ne serait peut-être pas tout à fait souhaitable. Et c'était au moment où les financements internationaux sur la solidarité internationale ont basculé des financements de soutien au développement à des financements conditionnés à l'environnement. Donc ce n'est pas un hasard non plus. Donc il y a eu ça, ça s'est passé dans les années 2000, ça s'est bien vu au niveau des interventions. Et puis maintenant, la décroissance est quand même largement présente dans tout un tas de domaines. Hein. On parlait du livre de Daniel Cohen pour des raisons différentes. Hein. Mais l'important, c'est que cette thématique soit sous-jacente, que les étudiants viennent très spontanément parler de la décroissance. Hier, la semaine dernière, j'ai fait une intervention pour le livre à l'École normale supérieure de Paris. Ils attendaient 40 personnes, il y a eu 120 personnes, et ils étaient tous à la fin en disant « Bon, d'accord, on est d'accord avec vous, mais maintenant, comment on fait ?» Donc, c'était même plus la stupeur, le « Mais c'est qui, c'est fou ?» C'était « Bon, les considérations générales, vous êtes gentils, mais nous, on veut passer à l'action. » Donc, les choses ont énormément évolué, je trouve, en 10 ans, sur ces questions-là. Alors moi, je serais quand même plus théorique, hein, tout sans être, évidemment, en philosophie, sans être trop éloigné du concret non plus. Donc je reviens sur mes 5 raisons. La première raison pour laquelle on peut être pour la décroissance, c'est tout simplement l'étroite corrélation qui existe entre l'impact des modes de vie des sociétés de croissance et l'état des écosystèmes. Alors, il y a un domaine sur lequel c'est assez fort, c'est le dioxyde de carbone, tout simplement. Quand on regarde la corrélation entre carbone et croissance, elle est, je ne sais plus combien c'est 0,9, c'est une corrélation qui est très très forte. Alors, bien sûr, il existe l'argument du découplage, il existe l'argument de la mise en place de tout un tas de technologies qui vont permettre de décarboner, mais très vite, on arrive à un débat sur les possibles technologies qui est assez compliqué. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance là-dessus, mais je vais prendre juste quelques exemples. Aujourd'hui, quand on regarde les différents modèles, il n'est pas évident du tout que l'on puisse réaliser ce découplage, c'est-à-dire dans un grand nombre de cas. Quand vous regardez les études qui promettent le découplage, il y a des biais, elles sont, disons, incomplètes, elles ne prennent pas en compte certains facteurs. Le plus classique, c'est de ne pas prendre en compte l'effet rebond. L'effet rebond étant consistant à augmenter l'efficacité d'un bien ou d'un service, l'efficacité écologique d'un bien et d'un service. Mais pour X ou Y raison, ce service lui-même va être répandu en plus grande quantité, et donc au final, l'impact en carbone va augmenter. Je vous donne juste un petit exemple, hein, toujours sur les technologies de l'information. Vous utilisez le GPS, quand vous utilisez le GPS, ça permet de réduire les distances, éviter semble-t-il, optimiser en tout cas le trajet. Ça vous permet d'optimiser le trajet et, semble-t-il, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque vous êtes plus pris dans les embouteillages. C'est de bon sens, hein, et on trouve ça dans plein de rapports. Mais sauf que le bon sens est vraiment mauvais conseiller en général, parce que le GPS, souvent, pour vous faire économiser un petit peu de temps, il va vous faire prendre l'autoroute qui est à 30 km, et en fin de compte, vous allez faire plus de kilomètres. Alors ça, c'est juste un exemple. On va dire, oui, mais il y a une quantité d'autres exemples. Oui, mais macroscopiquement, ce qui va se produire, c'est que le GPS va permettre de mieux remplir le système de circulation. Donc, il va permettre d'optimiser le nombre de voitures. En optimisant le nombre de voitures, il va générer de la place disponible dans les voies de circulation, et les personnes qui ne prenaient pas leur voiture vont prendre leur voiture. Hein, ça, quand vous demandez aux géographes qu'est-ce qui s'est produit depuis 150 ans avec l'arrivée des communications et des télécommunications, ils vont vous dire qu'il y a un lien très étroit entre la vitesse et l'amélioration des communications, l'abaissement du coût de communication et l'expansion du transport. C'est ça la règle. La règle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des progrès sur la communication, il y a eu plus de transport. Donc il faudrait expliquer, plutôt que de prendre l'exemple un peu de bon sens, mais malheureusement le bon sens n'est pas toujours bon conseiller, de prendre tout un tas d'exemples de ce type-là, il faudrait plutôt, et c'est ce qu'on a fait nous dans le rapport sur les TIC vertes, c'est ce qu'on a fait, on a été voir les géographes, on a été voir tout un tas d'autres analyses, et on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça réduise les émissions de gaz à effet de serre. Mais très vite, on arrive à des débats qui portent sur des choix technologiques en tant qu'ils sont structurants de mode de vie. Les impacts peuvent être déplacés d'un secteur à un autre, et il faut avoir une vision un peu complète des enjeux de gaz à effet de serre pour voir que les possibles sont quand même assez contraints. Alors, sur cette question de l'écologie, l'argumentaire en faveur de la décroissance, c'est que le découplage n'est pas possible, évidemment, ou en tout cas que s'il est possible, il n'est pas démontré, et que par mesure de précaution, il est préférable d'avoir une politique dont on est à peu près sûr de l'efficacité, et réduire l'impact sur... le climat veut dire limiter, mettre en place tout un tas de solutions qui permettent de se passer de la voiture, qui permettent de... Donc moins de voitures plutôt qu'une voiture plus efficace, en quelque sorte. Hein. Donc ça, on va retrouver ça de manière très fréquente. Donc ça, c'est la première raison. La première raison, c'est pour l'écologie. Alors, on pourrait faire la démonstration aussi pour la diversité biologique. On pourrait regarder la corrélation avec l'empreinte écologique. Enfin, voilà, la plupart des indicateurs vont dans ce sens-là et indiquent plutôt que la croissance est le facteur structurant. Alors, la deuxième raison, alors vous voyez que sur cette première raison, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de croissance parce que la croissance du PIB détruit les écosystèmes. Le PIB mesure la consommation ou la production, enfin, il y a plusieurs lectures possibles du PIB, ou du PNB, enfin, on va pas... ça ne fait pas une grande différence pour la discussion ici. Le principe général, c'est de mesurer l'activité économique, c'est-à-dire les échanges. Plus il y a d'échanges, et plus il y a de transit, et plus il y a de transport, et plus de... Et donc, tout ça n'est pas bon pour la planète. Donc, c'est dans cette première approche, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de croissance. Dans la deuxième approche économique, c'est plutôt qu'il n'y a plus de croissance. Et là, l'idée, c'est plutôt de dire que la croissance est une espèce de but vain, la croissance illimitée en tout cas, et qu'on est déjà, alors ça aussi, ça peut se discuter, hein, et qu'on est déjà dans une période où la croissance est statistiquement faible, elle ne fait que se ralentir. Alors il y a des études qui montrent ça, quand on regarde la croissance sur les 40 ou 50 dernières années, on voit que chaque décennie, sur la moyenne sur une décennie, il y a un peu moins de croissance que la décennie précédente. Et que tout indique plutôt que la croissance ne reviendra pas et que donc il faut commencer à réfléchir différemment. Alors, la situation actuelle par rapport à l'emploi, notamment, a quelque chose d'assez pathétique où on essaye de... tous les gouvernements successifs essayent de relancer la croissance dans un système qui, manifestement, ne croit pratiquement plus, où on se bat sur des chiffres des 0,5, des 0,7%, 1% grand maximum. En tout cas, ça n'a plus rien à voir avec la croissance des années 60. Donc, il y a un moment, il faut réfléchir différemment. Alors, il y a pas mal d'explications à l'épuisement de la croissance. Dans le domaine de la décroissance, qui est mis fortement en avant, c'est l'épuisement des ressources. Donc, notamment Nicolas Georges-Eugène, dont je parlais. Son argument, l'entropie est un truc très compliqué. Hein, j'ai discuté pendant longtemps d'entropie. Il y a beaucoup de conceptions là-dessus. Pour être simple, il suffit de penser que quand on exploite un métal dans le sol, quand on exploite du pétrole dans le sol, on commence par le gisement le plus aisé d'accès, le gisement le plus concentré, Et puis, le plus aisé d'accès, quand je dis le plus aisé d'accès, il faut bien avoir en tête que c'est à la fois le plus aisé sur le plan économique, c'est celui qui coûte le moins cher, c'est celui qui est le plus aisé sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on sait faire, on a des techniques qu'on connaît. Ouais. C'est le plus aisé aussi sur le plan politique. Hein. Vaut mieux le pétrole dans l'Arabie Saoudite, dans le désert, avec une dictature, plutôt que le gaz de schiste en Ardèche. Hein. Tout de suite, ça devient plus compliqué, le gaz de schiste en Ardèche. Hein. Mais je dis ça à dessein parce que précisément l'épuisement des ressources, hein, les étudiants disent souvent, mais ils ont toujours pour les ressources, ils ont le modèle de la petite bouteille, là, juste, j'ai pas pris ma bouteille, mais de la bouteille d'eau qui se vide. Puis quand il reste 40 ans de ressources, ben, ça veut dire que si on consomme l'équivalent d'un bouchon, mettons, bien, il reste 40 bouchons et puis à la fin, on arrive à la fin de la bouteille. C'est pas du tout ça, l'épuisement des ressources. L'épuisement des ressources, c'est une difficulté économique, technique, politique, sociale, croissante. Dans énergétique même, dans l'accès aux ressources. Hein. Donc ça veut dire que ça va devenir de plus en plus désagréable. Et à un moment, il va falloir choisir entre sacrifier l'Ardèche ou sacrifier les voitures. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que les deux ne seront plus compatibles. Les choix vont devenir beaucoup plus difficiles sous tous ces angles-là. Donc l'épuisement des métaux, l'épuisement des fossiles, l'épuisement du charbon, tout ça, ça marche sur le même principe de la ressource épuisable. Hein. Ce n'est pas du tout la même logique que l'écosystème, parce que, je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais enfin, l'écosystème est un système, donc avec tout un tas d'interdépendances énergétiques, matérielles, entre les espèces. Bon, c'est assez compliqué, hein. Notamment le cas du climat est assez compliqué. On constate que le climat est à peu près stable, hein, mais quand vous faites la carte des climats, climat continental, climat océanique, bon, on sait que c'est stable depuis des milliers d'années. Mais pourquoi c'est stable ? Hein, personne ne sait vraiment, parce que c'est très 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 compliqué, c'est pour ça que la modélisation pose tant de problèmes, parce que y a des facteurs dans tous les sens. Et les écosystèmes, quand ils sont ce qu'on appelle résilients, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à être, disons, stables autour d'une position comme ça, hein, avec certaines résiliences, donc on les secoue, ou ils se secouent tout seuls, parce qu'il y a aussi les catastrophes naturelles, ils se secouent tout seuls comme ça, mais ils restent résilients. Et puis après, quand vous allez un petit peu trop loin, il y a ce qu'on appelle l'effet de seuil. Et l'effet de seuil, c'est paf, on change et on va dans un autre état. Et un autre état, c'est par exemple, sur le cas du climat, si ça chauffe un petit peu trop, le méthane de Sibérie est relâché et vous avez un emballement climatique et la Terre refroidira dans 500 ans. Entre-temps, elle va passer par plus 10 degrés. Voilà le genre d'effet de seuil. Alors, 300 ans, 500 ans pour la vie, c'est rien, hein, sur l'histoire de la planète. Elle va s'en remettre. Elle va repasser par un autre état, elle va rebasculer vers d'autres états et ainsi de suite. Par contre, nous, ça va être un petit peu dur à supporter. Donc voilà, l'écosystème, il fonctionne comme ça. La ressource épuisable, pas du tout. En gros, plus vous creusez, moins vous trouvez. Hein, dans un premier temps, plus vous creusez, plus vous trouvez. Rendement positif. Dans un deuxième temps, plus vous creusez, moins vous trouvez. Et moins vous trouvez, plus ça vous coûte cher en énergie, parce qu'il faut retourner des tonnes et des tonnes de terre pour avoir la même quantité de métal à la fin. Plus ça vous coûte cher sur le plan, plus vous prenez des risques sur le plan politique. Hein, faut aller voir les Ardéchois. Encore une fois, en Arabie Saoudite, c'était quand même plus confortable. Vous prenez des risques sur le plan aussi technologique. Quand vous regardez l'accident de BP, la plateforme BP dans le golfe du Mexique, pourquoi ? Ben parce qu'on est sur des forages très excitants, entre guillemets, hein, c'est très profond, trois dimensions et tout, mais très risqué. Avec les technologies, ils sont bien moins maîtrisés. Regardez les gaz de schiste, ça fuit de partout. C'est bien moins maîtrisé que le forage classique. Donc on va prendre de plus en plus de risques. On va prendre de plus en plus de risques, ça va coûter de plus en plus cher. Il faut compter un milliard minimum pour aller dans une nouvelle exploitation maintenant. Avec le prix du baril, puisque quand ça s'épuise, le prix va faire le yo-yo en permanence. Hein. Puisque plus ça s'épuise, la montée, c'est facile. Hein. Plus on consomme, plus on creuse et plus on alimente. Mais la descente, ça va être plus compliqué, parce que ce qui va faire, un des grands drivers qui va faire stopper la consommation, ben, ça va être quand le prix va flamber. Quand le prix va flamber, on l'a déjà vu plusieurs fois, quand le prix flambe, tout le monde change un petit peu ses habitudes, et le prix retombe aussi sec. Pourquoi ? Parce que le prix, il est fonction de l'ajustement de l'offre et la demande. Mais l'exploration, la mise en exploitation et tout, c'est 10 ans, c'est pas un ajustement à la marge. Donc vous avez des processus industriels extrêmement longs, et de plus en plus longs. D'autant plus que le forage est difficile, et c'est vers là qu'on va, et en même temps, des prix qui font le yo-yo. Ça va être très compliqué. Donc voilà, dans l'épuisement des ressources, et ça c'est vrai pour les métaux aussi, notamment dans le domaine des technologies de l'information, ce qu'on appelle les terres rares, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas rares, Pourquoi est-ce qu'on l'appelle les terres rares? Ce n'est pas parce qu'elles sont rares, il y en a plein. C'est parce qu'elles sont peu denses hein, en quantité dans l'écorce terrestre. Il y en a beaucoup, mais avec une très faible densité. Et donc, il faut retourner des tonnes et des tonnes de terre pour en avoir un tout petit peu. C'est pour ça que ça se fait en Chine, parce que c'est très bien placé. C'est encore une fois dans un désert où il y a quelques autochtones qu'on peut chasser facilement, alors que les États-Unis, qui avaient une part importante de production dans les terres rares, ont fermé en grande partie leurs mines. Alors, on a dit le prix et tout, oui, certes, mais il y a aussi des habitants, encore que c'était, je crois, que dans assez proche de réserves indiennes. Donc, là aussi, vous voyez, les enjeux politiques et sociaux sont jamais très très loin. Donc, voilà. Alors, le recyclage illimité, parce que certains répondent à ça, bah oui, il suffit de faire l'économie circulaire. Mais là, je vous renvoie à un excellent article sur Novetic dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez la petite newsletter Novetic. L'une des dernières newsletters, c'était sur le modèle H&M du textile, parce que le textile va de plus en plus vers l'économie circulaire. Hein. Puma, c'est déjà fait. H&M, ils veulent aller vers la récupération totale des vêtements et tout. Le titre de l'article, c'est « Quand H&M tourne en rond ». Parce que l'économie circulaire, c'est bien, mais dans la fast fashion, comme on dit, c'est-à-dire des produits où vous les achetez, ils sont déjà démodés, et c'est ça le business model. Le business model, c'est dès que vous achetez un produit, ce produit est démodé, de telle manière à ce que, voilà, il faut faire tourner. Donc, c'est des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, que vous changez très souvent. L'économie circulaire, avec des produits qui ne durent pas, c'est bien, sauf que ça consomme toujours pas mal de ressources. Il faut toujours de l'énergie, quand même, pour faire tourner les produits, pour faire tourner l'économie circulaire. Alors, une autre source, c'est les renouvelables. Alors là, les renouvelables, il faut aussi être modéré sur le potentiel. Je sais que je ne suis pas aussi pessimiste que Jean-Marc Jancovici en la matière, mais il faut quand même voir que c'est des ressources, là aussi, notamment des terres rares, on y revient toujours, pour construire du renouvelable en quantité massive, il y a un truc qu'on appelle le cannibalisme énergétique. C'est-à-dire pour construire du renouvelable, il faut de l'énergie. Pour fabriquer les appareils renouvelables, il faut de l'énergie. Et si on construit massivement du renouvelable, tant qu'on n'a pas de renouvelable, bon, on va fabriquer le renouvelable avec du fossile. Donc ça va plutôt avoir tendance à tirer la demande mondiale de fossiles plutôt que la ralentir dans un premier temps. Hein, ce qu'on appelle le cannibalisme énergétique. Donc oui, du renouvelable. Après, ben, on arrive encore sur des choix difficiles, hein, on y revient toujours. Savoir que les ordres de grandeur, c'est pour passer, par exemple, tout le nucléaire en photovoltaïque, c'est à peu près 2% du territoire qu'il faut couvrir de photovoltaïque. Ça fait tous les toits de France. Ce qui n'est pas délirant, mais c'est que le nucléaire. C'est-à-dire que c'est même pas 20% de l'énergie. Vous avez encore, il faut y mettre 5 fois plus. Ça fait beaucoup plus de panneaux solaires que ça. Bon, voilà, donc vous arrivez quand même à un moment où il faut bien mettre les panneaux quelque part, il faut les fabriquer, il faut les mettre quelque part. Donc il y a un potentiel qui est très important indéniablement, mais pas un potentiel de consommation illimité. Et là encore, quand on regarde matériellement le fonctionnement de l'économie, hein, donc là on est sur le deuxième argument qui est l'argument de l'économie matérielle, hein, tout ce qu'on appelle tout un tas d'études qui portent là-dessus maintenant, que vous pouvez trouver sur le site du Commissariat général au développement durable. Ces statistiques ont été peu à peu poussées, qui consistent à essayer de mesurer l'évolution, à essayer de qualifier et mesurer l'évolution matérielle de l'économie en sens des tonnes de matière qui circulent dans l'économie. Ben, vous regardez l'économie française, moi je passe ça aux étudiants, l'économie française consomme toujours plus de matière chaque année. Toujours plus, alors ça se voit peut-être un peu moins sur le territoire français, parce qu'on importe de plus en plus de matière, alors, on exporte de plus en plus aussi, mais voilà, on accélère les flux de matière, parce qu'avec la valeur ajoutée, plus il y a d'échanges, à chaque fois, il faut quand même qu'il y ait un support matériel. Alors là, le grand argument après, c'est oui, mais le numérique, toujours le numérique, oui, sauf que le numérique, non. Le numérique ne va plutôt avoir tendance, là aussi, si on regarde l'histoire des économies industrielles, une grande révolution industrielle, c'est quoi? Ben, c'est une technologie de rupture qui permet d'augmenter les gains de productivité. Hein. Alors, une technologie, des fois, on appelle ça générique, hein, dans les grappes d'innovation de Schumpeter. Donc, il y a une technologie générique qui va se diffuser dans tout un tas de secteurs et qui va accélérer les gains de productivité dans tout un tas de secteurs. Le numérique fait partie de ces technologies-là. Ce n'est pas une technologie qui permet de consommer moins, c'est une technologie qui est adoptée dans la majorité des cas parce qu'elle permet des gains de productivité, parce qu'elle permet de consommer plus, parce qu'elle permet de produire plus. Ce n'est pas pour produire moins. Donc à la fin, ce n'est pas étonnant que ça marche, puisque c'est le but, quelque part. Hein. Donc le numérique, quand il est brandi pour l'écologie, il faudrait peut-être pas, ou l'impact matériel, mais il faudrait peut-être pas oublier que c'est un argument marginal dans l'usage des technologies de l'information. L'argument majeur, c'est plutôt de consommer, de produire plus, c'est la croissance, c'est l'économie de travail, toujours la même logique. Donc ça, c'est les deux premiers arguments. Troisième argument, l'argument anthropologique. Alors, il y a un nom, il n'y a pas toujours des noms qui correspondent à chaque courant. Nicolas Georgescu-Rogène correspond assez bien au courant de l'économie. Donc, celui qui dit que la croissance, il n'y en a plus, et plus vous essayerez de faire de la croissance, et plus ça va être douloureux. C'est un peu ça, la logique. Le premier, c'est de dire plutôt l'écologie, c'est qu'il ne faut pas de croissance, parce que cette croissance détruit l'environnement. Et la troisième peut être personnalisée par référence au nom de Serge Latouche. La troisième est de dire, mais la croissance, c'est un mode d'habiter le monde. C'est un mode de civilisation. C'est un type de civilisation, en fait. C'est un type de civilisation qui repose sur l'échange. Et l'échange à but mutuellement bénéfique, c'est Ricardo, c'est l'exemple de Ricardo. Moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est, il est très parlant. Ricardo dit ce que dira Paul Krugman de la même manière en 2000 quand il a publié ce petit bouquin qui s'appelle « La mondialisation n'est pas coupable ». Il dit exactement ce que disait Ricardo en 1817. Ricardo prenait l'exemple de l'Angleterre et du Portugal. Il disait, regardez, l'Angleterre produit du vin et du tissu, le Portugal produit du vin et du tissu, ils se trouveraient tous les deux beaucoup plus riches s'ils se spécialisaient, donc le Portugal dans le vin et l'Angleterre dans le tissu, s'ils se spécialisaient et qu'ils échangeaient. Donc ils échangent, et comme ça, ben, tous les deux, ils ont le produit au meilleur prix, tous les deux sont plus riches, mais ça veut dire, regardez bien, ça veut dire d'une part spécialisation dans la division du travail, ça veut dire échange, et ça veut dire possiblement échange inégal aussi. Alors c'est là où il y aura toute la discussion autour de l'échange, mais entre le marxisme et le libéralisme, le socialisme et le libéralisme, avec un qui dit, oui mais attention, l'échange est inégal, et l'autre qui dit, l'échange est volontaire, libre, consenti. Donc, il y a toute cette discussion, mais c'est pour ça que c'est une question anthropologique et pas simplement une question d'orientation politique. Ça ne veut pas dire qu'évidemment que c'est une simple vue de l'esprit, cette question d'inégalité dans l'échange, mais on voit bien quand on lit le Capital de Marx, on voit très bien que la perspective du développement des forces productives, la perspective du marché mondial, tout est chez Marx déjà. On se demande d'ailleurs comment les marxistes peuvent s'étonner de la mondialisation actuelle, parce que tout est écrit quelque part dans ce que dit Marx. Donc c'est un mode d'être, c'est un mode c'est une manière de se relier aux autres. La manière de se relier aux autres, c'est d'échanger. Et ça vaut aussi pour le secteur public. Ce que je viens de dire, c'est insensible à la distinction public-privé, puisque l'État va aussi se spécialiser, c'est la logique de spécialisation. Moi, par exemple, j'échange des cours contre des enseignements, ou j'échange, alors les bouquins, c'est un peu plus évident, mais j'échange des enseignements contre tout un tas de trucs que je vais acheter. Je vais acheter des montres que je n'ai pas fabriquées, des stylos, et ainsi de suite. Donc c'est une logique, comme ça, d'entrer dans l'échange, et l'échange, on va penser que c'est d'autant meilleur qu'il y a plus de monde qui entre dans l'échange. Alors tout ça a un certain nombre de caractéristiques particulières. La première, c'est de mettre le travail au centre de la civilisation, et le travail dans un sens bien particulier, le travail productif au sens de la valeur ajoutée. Ce n'est pas l'activité, le travail, ce n'est pas le travail domestique, encore que si ça peut permettre d'augmenter les gains de productivité, mais vous voyez, c'est un certain type de travail, c'est aussi une certaine discipline, c'est une certaine productivité qu'on exige de l'individu. Cet individu qui doit rentrer dans l'échange, se mettre en valeur, générer de la valeur ajoutée et tout ce qui va avec. Donc il faut gagner du temps, produire plus et ainsi de suite. Vous voyez que dans ce modèle-là, la nature est une simple ressource. C'est une simple ressource. Elle vient comme support de l'échange et elle n'a pas de valeur en soi, elle n'a pas de valeur intrinsèque, donc ce qui évidemment va complètement à l'encontre de la position de l'écologie. avec cette civilisation, on a tout un grand récit de la technologie triomphante. Donc tous les autres pays sont vus, tous les pays sous-développés sont vus comme des pays qui sont en manque de quelque chose. Les pays développés vont dans les pays sous-développés et disent « Ah oui, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela ». Donc ils sont en manque de quelque chose, et ce que disait Marx aussi, il disait « Les pays les plus avancés industriellement montrent aux autres l'image de leur propre avenir ». C'est-à-dire que tout le monde va sur la même trajectoire. Et d'ailleurs, les experts au niveau mondial en développement, il y a un excellent bouquin qui est sorti des Nations Unies à l'occasion des 50 ans des Nations Unies sur les différentes conceptions du développement donc à l'échelle mondiale, hein, dans la pratique des Nations Unies, les différentes conceptions du développement, toutes mettent la croissance au centre. Toutes. Il n'y a pas d'exception. Donc le modèle, il est assez caractéristique. Donc quand on remet en cause la croissance, on touche le cœur de quelque part. C'est pour ça que c'est assez provoquant ce mot-là, c'est pour ça que ça attire tout un tas de questions qui vont bien au-delà des discussions habituelles sur la régulation, marchand, non-marchand, et ainsi de suite. D'autant plus que nous nous représentons volontiers les sociétés sous-développées comme étant religieuses, irrationnelles, ils meurent tous à 30 ans. Enfin, il y a tout un tas de poncifs qui ont été démontés en grande partie par l'ethnologie, l'anthropologie depuis des années, mais ça reste encore très présent un peu partout. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on peut vivre avec $1 par jour tout en ayant une espérance de vie très élevée. Mais il y a un certain nombre d'exemples qui sont quand même intéressants. Et les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux indicateurs de richesse, permettent de montrer des modèles sociaux qui sont différents d'une autre, comme celui un exemple qui est souvent mis en avant, c'est Cuba, par exemple. Cuba, avec un taux d'alphabétisation très élevé, une espérance de vie très élevée, un PIB qui est extrêmement faible. Et en fait, je vous renvoie au graphique de Jean Gadret. Hein. Jean Gadret a fait tout un tas de travaux comme ça, statistiques, pour essayer de montrer la corrélation entre PIB et différents types d'indicateurs de bien-être. Et vous apercevez que au-delà de 5-10 000 dollars de PIB, il n'y a plus beaucoup de corrélation avec aucun des indicateurs de bien-être, en fait. Hein. On arrive à 5, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit aussi que si tout le monde devait se développer selon ce modèle-là, parce qu'il faut bien se souvenir que dans ce modèle de développement, dans cette civilisation, en fait, l'équilibre, il est atteint quand vous êtes en croissance auto-entretenue, c'est-à-dire en croissance perpétuelle. C'est ça le modèle de société. C'est quand il n'y a plus de croissance, ça ne va pas. Il faut relancer la croissance. Alors quand on n'est que quelques milliards, enfin on est 1 ou 2 milliards à le faire, vous voyez déjà les conséquences sur le climat et sur le reste, mais quand on va être 9 milliards à le faire, ça va compliquer les choses énormément. Et quand vous posez la question, évidemment, quand vous regardez quels sont les courants, c'est ce que j'ai fait, je suis parti un an en Inde comme ça, quand vous regardez quels sont les courants qui sont critiques de la croissance, qui sont critiques du développement, ben vous retrouvez, pour le cas de l'Inde, vous retrouvez les courants gandhiens. Gandhi disait déjà en 1910-1915, avant que l'Inde soit indépendante, que si l'Inde devait être réellement indépendante, il fallait qu'elle trouve sa voie de civilisation. Et la voie de civilisation ne pouvait pas être celle des Anglais, parce que manifestement, elle engendrait colonialisme, destruction de la nature, et ainsi de suite. Donc il fallait, pour lui, l'indépendance, ce n'était pas faire comme les Anglais à la place des Anglais, c'était trouver un mode de civilisation qui soit réellement de civilisation, parce que celui-là engendrait du conflit plutôt que de la civilisation. Hein, civilisation, il faut renvoyer la racine, c'est civilité, c'est la paix. C'est comment est-ce qu'on engendre la paix et ce qu'on dit maintenant en Amérique latine, le buen vivir, hein, le bien vivre. Le bien vivre ensemble à l'échelle mondiale, ça ne semble pas possible si tout le monde vise la croissance maximum. Donc dans ce courant-là, Serge Latouche développe toute une réflexion très largement ancrée justement dans les pays en développement ou sous-développés en disant que le développement est consubstantiel à la croissance, que c'est la même chose et que donc le développement durable, c'est jamais que faire durer le développement encore un petit peu et que tout l'enjeu, c'est de sortir de cet imaginaire hein, qui nous habite partout quand on va voir des films à la télé ou au cinéma. Moi, je me rappelle, je cite souvent ça, mais c'est quand même assez frappant, une publicité dans TGV Magazine qui disait « Pour aller à l'exposition universelle sur Vénus en l'an 2300, prenez je ne sais pas trop quoi. » Donc, il est bien évident que l'avenir, notre avenir, c'est comme dans Star Trek. Quand vous regardez les émissions sur les sciences et techniques, là aussi, voilà comment le monde en projette un petit peu. Hein, demain sera comme hier. C'est-à-dire hier, les technologies se sont améliorées, entre guillemets. On ne dit surtout pas ce que ça coûte à la planète. Et demain, ça va continuer. Alors, on ne sait pas par quel miracle. Hein. Dans Star Wars, il y a l'énergie propre et gratuite et illimitée qui fait circuler les vaisseaux. Dans les films de science-fiction, il y a toujours une hypothèse. Un bon film de science-fiction, c'est un film qui est à 99% réaliste et avec une ou deux hypothèses qui changent tout, comme l'énergie gratuite et illimitée, ou la téléportation, ou des trucs comme ça, qui permettent qui changent complètement la situation. Bon, on n'est pas dans cette situation, et quand on regarde les débats sur les technologies, on en est quand même assez loin. Donc ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, la quatrième raison, c'est tourne autour de la démocratie. Alors la démocratie, donc je rangerai dans cette catégorie-là tous les critiques de la société de spectacle. Le journal La Décroissance, qui est édité à Lyon, donc qui sont plus sur cette idée d'une dépossession des besoins. Qui décide des besoins? Quels sont nos besoins réels et qui en décide? Là encore, je peux prendre l'exemple des technologies de l'information. Quand on regarde la littérature autour des années 90 sur les technologies de l'information, il était bien évident que pour les producteurs, qu'il n'y avait pas de demande en téléphone portable. Ce n'était pas un produit pour lequel il y avait une demande. Il n'y avait pas de demande. Voilà. Alors, sauf des usages très spécialisés, du type les pompiers ou les ambulances, mais pour le grand public, il n'y avait pas de demande. Ils le savaient. Hein. Et c'est un phénomène assez courant quand vous discutez du côté de l'industrie, du commerce. Il n'y a pas de demande, mais il faut créer la demande. Il y a une conscience très aiguë qui a besoin de créer la demande. Et sur les technologies de l'information, quand vous regardez comment ça s'est créé, ça a été à la fois un techno-push du côté du monde de l'entreprise privée pour vendre des nouveaux produits, mais aussi un techno-push du côté des réglementations publiques. Parce qu'il était absolument urgent de se numériser, parce que sinon on allait se faire doubler par les Américains, les Chinois. Enfin, il fallait absolument aller à fond là-dedans. Et même aujourd'hui, quand on regarde les réglementations sur le numérique et les grandes politiques publiques sur le numérique, la priorité, c'est à numériser tout ce qui peut être numérisé, en se disant que ça doit être bon pour l'économie, plus ou moins. Il faut numériser tout ce qui peut être numérisé. Et puis, c'est vrai, ça a des conséquences peut-être... le reste, on régule. Hein. D'abord, on numérise, après, on régule les problèmes éventuellement qui peuvent survenir sur la vie privée, sur la production de déchets, mais ce n'est pas la priorité. Hein. Moi, j'ai discuté au début des années 2000, au milieu des années 2000, avec le commissaire européen aux technologies de l'information, qui me disait que l'impact écologique du numérique était résolu. Et que donc, ce n'est plus la peine d'en parler. On est en 2016. L'année dernière, l'été, il y a eu un rapport qui est sorti sur le commerce illégal de déchets électroniques dans le monde. Il y a une avalanche de déchets électroniques qui était parfaitement prévisible. Bon, mais si on considère que c'est résolu, évidemment, il y a pire de sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, on ne voulait pas voir ce qui était parfaitement prévisible. Et ce qui était à tel point prévisible que la directive européenne qui règle tout ça a été initiée par le Parlement européen à la fin des années 90, à une époque où il y a encore très peu de numérique. Il n'y a pas besoin d'être très sorcier quand même pour s'apercevoir que la production d'objets par milliard allait nécessairement produire des déchets par milliard et qu'en plus, on ne savait pas les traiter. C'est vraiment... Il n'y a pas besoin d'être très malin. Hein. Et pourtant, voilà, la priorité, c'est la numérisation. Le reste, on verra plus tard. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce phénomène absolument surprenant qui est que en 1990, tout le monde trouvait que le téléphone portable, c'est le gadget qui servait à rien, et qu'aujourd'hui, tout le monde, personne ne voit plus comment s'en passer. C'est-à-dire que la technologie est devenue ce que Ivan Ilitch appelle, elle s'est mise dans une situation de monopole radical. Si vous voulez communiquer, vous le faites par le numérique, parce que le numérique a appris à monopoliser tout un tas de voies de communication qui existaient avant. Il y avait des voies de communication avant, mais ces voies de communication n'étaient pas numériques. Alors, si on regarde d'autres besoins, de la même manière, pour bien se représenter les choses, il suffit d'aller dans une zone type IKEA, enfin les grandes zones d'activité où on a toutes ces boîtes, ces grands containers avec soit des meubles, soit de la nourriture, soit des vêtements de sport, c'est des boîtes comme ça les unes à côté des autres. Quand vous regardez ça, vous voyez tout de suite que quand on veut se chausser, Décathlon. Faire un peu de sport, Décathlon. Quand on veut acheter des jouets, Toys R US. Quand on veut acheter des meubles, IKEA. Tout ça, c'est chargé énormément de carbone. C'est des meubles low cost. IKEA est arrivé dans les années 80-90, IKEA a révolutionné le secteur qui stagnait un petit peu, Donc, ils fabriquaient des bons meubles, quoi. Hein. Et il n'y avait pas eu beaucoup de changements depuis la guerre. Il y avait beaucoup de producteurs qui faisaient des meubles qui duraient longtemps. Et IKEA a permis, officiellement, la version officielle, c'est démocratiser le meuble. On peut le voir aussi comme étant plutôt transformation du meuble, dans l'industrie du meuble, en low cost, en meuble prêt à jeter. Enfin, vous avez fait expérience des meubles IKEA, ça tient tant que vous n'y touchez pas. Le jour où vous le démontez, déjà, c'est foutu. Même si vous le changez de place, ce n'est pas complètement sûr que ça tienne. Donc, alors, chaque fois, c'est des entreprises qui sont mondiales, globales, qui fabriquent les produits aux quatre coins de la planète et qui, encore une fois, se positionnent en monopole radical, au sens où vous pouvez très difficilement, en tout cas quand vous avez un budget contraint, vous pouvez très difficilement faire autrement. C'est le cas aussi des zones périphériques, hein, dans la banlieue, enfin, je connais pas très, mais je suis d'origine lyonnaise, de la banlieue lyonnaise, enfin, de la campagne autour de Lyon, mais j'habite à Paris, et il m'est arrivé de circuler autour de Paris en cherchant le centre de la ville. Et il n'y en avait pas de centre-ville. Parce que c'est tellement fait pour les voitures que le centre-ville, c'est pour les piétons, ça. C'est les villes qui ont été construites pour les piétons qui ont un centre-ville. Les villes construites pour les voitures n'ont pas de centre. Et donc vous tournez dans des rues qui sont toutes un peu grises, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de voitures, donc ça pollue, et il n'y a pas de centre. Comment vous faites dans ces endroits-là pour vous déplacer à pied en vélo? Ben, vous ne faites pas. Donc là, l'automobile est en position, encore une fois, de monopole radical. Il y a des endroits aux États-Unis où, si, alors ça, c'est un spécialiste de la police autoroutière qui m'avait dit ça, moto, des endroits aux États-Unis, si vous vous promenez à pied, vous êtes arrêté par la police. Ce n'est pas normal. Vous êtes forcément un vagabond pour vous promener à pied. Donc voilà, la dépendance totale à la voiture. Alors, voilà, la question, c'est qui construit les besoins? Comment nous sommes-nous retrouvés dans une situation de dépendance à tous ces produits? Et c'est une dépendance réelle. C'est-à-dire que si vous voulez manger, il faut prendre la voiture. Si vous voulez travailler, il faut prendre la voiture. Et ainsi de suite, d'où toutes les difficultés. Après, quand le prix du pétrole augmente, on a vu en 2008, quand le baril de pétrole est monté à 150 $, et des endroits aux États-Unis où les gens, parce qu'en plus ils gagnent peu d'argent, où les gens allaient en voiture au travail pour gagner l'argent, pour mettre de l'essence dans la voiture, pour aller au travail, pour gagner l'argent, pour mettre l'essence, pour... Voilà. Et comme ça consommait tout leur argent, pour le reste, ils allaient manger à la soupe populaire. Voilà le monopole radical. Donc le monopole radical, vous voyez, c'est le monopole d'une technique. Ce n'est pas le monopole spécialement d'un constructeur. Ce n'est pas Peugeot, ce n'est pas Volvo, ce n'est pas Renault. C'est tous... en tant qu'ils ont intérêt à ce que les gens soient dépendants de la voiture, ce qui assure des débouchés. Ça assure des débouchés, vous voyez la logique, ça assure des débouchés au supermarché, parce que des hypermarchés sans voiture, c'est absurde, pas possible. Bon, un des slogans de Carrefour dans les années 70, d'ailleurs, un des éléments clés de la stratégie de Carrefour, c'était le développement de l'automobile. Donc développement de l'automobile va avec développement des routes, qui va avec développement des supermarchés, qui va avec développement aussi des zones pavillonnaires. Donc, il y a toute une logique comme ça, qui se renforce, de transformation des besoins, où finalement on arrive dans une situation qui est, on se dit finalement, mais comment je peux faire des choix pareils quand on regarde un peu dans un temps un peu plus long. Alors, cette critique démocratique de la décroissance ici vient dire, mais attendez, on est dans quel système? On est dans quelle industrialisation du manque, hein, ça c'est, je renvoie aussi aux travaux de John Kenneth Galbraith ou de Baudrillard dans les années 70, on est dans une industrialisation du manque. Il y a toute une industrie publicitaire marketing dont le travail est de rendre les gens malheureux, d'expliquer que ce que vous avez, c'est pas bien et qu'il pourrait y avoir beaucoup mieux. Alors, les produits, maintenant, on ne communique plus sur les produits, on communique sur les relations sociales. Si vous avez tel portable, vous aurez beaucoup d'amis. Si vous n'avez pas ce téléphone portable, vous allez être exclu. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce que si vous n'avez pas, vous regardez notamment chez les ados ou même dans certains, même au travail ou dans les relations avec les collègues. Moi, j'ai un téléphone portable qui ne fait que téléphoner et envoyer des SMS, pas un smartphone du tout. J'ai toujours droit à des remarques. Ah ouais, pourquoi tu as un téléphone comme ça? Et t'es contre la technologie, t'es contre le progrès? Tu veux revenir à l'âge de pierre? Donc voilà. Alors vous comprenez pourquoi? Donc ça, il y a un pouvoir normatif derrière. Sur le façonnage des besoins. Et la question, bah, c'est comment on reprend la main là-dessus. Donc ça, c'est la quatrième raison favorable à la décroissance, c'est parce que la croissance est un processus de dépossession des besoins. Alors, je pourrais donner tout un tas d'autres exemples. Hein. La cinquième source, et j'ai appelé ça la source spirituelle. Alors la source spirituelle, c'est plus autour, il y a un nom qui revient souvent, c'est Pierre Rabhi. Je vous conseille, si Pierre Rabhi passe dans le coin, je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est un merveilleux conteur. Pierre Rabhi, dans ses conférences, ne fait que raconter sa vie. Mais c'est un merveilleux conteur, et donc, en fait, il vous emmène au travers de sa vie. En fait, quand on l'écoute, on s'identifie à lui, et on se dit, mais oui, pourquoi j'ai fait ces choix-là? Pourquoi j'ai pris cette orientation-là? Pourquoi j'ai voulu absolument être dans la grande boîte avec un gros salaire et tout, enfin... pourquoi j'ai voulu, je sais pas, faire des choses tout à fait coûteuses pour la planète. Et... Donc, ça montre que ce dont nous avons besoin n'est pas évident. Hein, c'est pas, ça tombe pas du ciel comme ça, les besoins. Quand on réfléchit, on peut complètement changer son mode de vie. Ce qu'a fait en partie Pierre Rabhi, ce que font en partie pas mal de personnes. D'autres personnes à sa suite. Donc ça nous ramène à cette question des limites. Moi, je déteste le vocabulaire des limites, d'une manière générale. On nous dit qu'il y a des limites à la croissance, il y a des limites... c'est pas ça le problème. Hein. C'est pas le problème des limites. Le problème, c'est est-ce qu'on veut des choses qui vont devenir désagréables? Et si on veut des choses qui vont devenir désagréables, c'est peut-être qu'on ne les veut pas vraiment. Donc le problème, c'est le désir. Hein, ce que disait Lacan. Lacan, il disait, le truc le plus révolutionnaire, c'est de ne pas céder sur son désir. Et en fait, on ne s'écoute pas. Très souvent, on ne s'écoute pas. Et Rabhi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoutez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bah oui, c'est vrai, il y a tellement de trucs futiles. Et donc ça, c'est le côté spirituel. Hein. Donc c'est la réappropriation du désir, la réappropriation des besoins, à une échelle qui est plutôt individuelle. Hein. Vous voyez que la précédente critique, c'était quand même une critique plus politique, hein, du monopole radical, de toutes ces choses-là. Là, on est plus sur le parcours de vie individuel. Je ne fais pas d'hierarchie, je ne dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien. Hein. Je liste seulement les différentes conceptions de la décroissance. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de dire, malgré les pressions des collègues, la pression de la famille, qui me dit « mais pourquoi tu veux plus de téléphone portable ?» Je garde mon exemple du téléphone portable. Voilà. Eh bien si, c'est ce que je veux vraiment. J'ai bien réfléchi, c'est ce que je veux. Je vais défendre ma position plutôt que de vivre la vie des autres, d'une certaine manière. Hein, que vivre au travers d'une vie préfabriquée, servie par le marketing, la publicité, les modèles de stars ou des choses comme ça. Une vie par procuration. Donc, je suis moi, mon désir c'est quoi? Donc ça demande un travail spirituel, en fait. Hein. Les exercices spirituels tels qu'ils peuvent se pratiquer en philosophie antique, par exemple, ou tels qu'ils peuvent un petit peu se pratiquer dans les voies du genre yoga ou tout ce qui est un petit peu oriental. Il y a beaucoup de philosophies que nous, on ne considère pas comme des philosophies en Occident, hein, parce que la philosophie en Occident, c'est une philosophie conceptuelle, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire des explications avec des concepts, ça veut dire ça, des explications. Mais ce n'est pas sur l'émotion, c'est pas sur le récit de vie, c'est pas un voyage intérieur, c'est pas ça. Alors qu'en Orient, si, il y a cette philosophie-là, qui est assez présente, et qui est même présente à l'université, hein, à peu près à moitié Occident, moitié Orient, dans les enseignements à l'université. Donc il y a tout un tas de techniques, effectivement, pour arriver à savoir ce qu'on veut, qui est la chose la plus difficile, parfois, à identifier. Et donc, il y a des courants ici qui peuvent... il y a le courant de la simplicité volontaire, notamment, hein, je vous lis peut-être juste pour... Donc là, vous voyez que ça n'a pas à voir avec la religion, entre guillemets, ça peut avoir à voir avec la religion, mais pas forcément, c'est une démarche personnelle. Alors, personnelle, il vaut mieux le faire de manière collective aussi, parce qu'il y a des techniques, des gens qui peuvent aider. Je vous lis les 9 caractéristiques de la simplicité volontaire telles qu'un auteur les a identifiées au Canada et vous allez comprendre. Première caractéristique, la sobriété au sens d'un ménage dans les objets et les attitudes. Hein, c'est une espèce de vide. Il y a trop plein de choses. On est toujours en train de s'activer, de passer du présent à l'avenir. Et puis finalement, on ne s'arrête pas sur ce qu'on est en train de faire, on ne prend pas du recul par rapport à notre manière d'habiter. Et donc là, l'idée, c'est de vider un petit peu tous les attachements qui sont pas forcément essentiels, finalement, en y réfléchissant bien. Un deuxième élément, c'est l'autosuffisance des actes. Deuxième caractéristique. C'est-à-dire essayer de se réapproprier un maximum de choses. Ça ne veut pas dire faire tout soi-même, Mais ça veut dire, quand je fais quelque chose, par exemple, un truc tout bête, je mange de la viande. Alors, je mange de la viande, qu'est-ce que ça veut dire? Je réfléchis, ah oui, il y a l'animal, oui, oui. Oui, quand même, les abattoirs, ce n'est pas super. Quand on regarde l'impact de la viande au niveau mondial, ah oui, c'est quand même 2/3 des terres agricoles mondiales. Ah oui, si on veut nourrir la planète, ça ne va pas être possible que tout le monde mange de la viande. Bon, c'est, voilà, se réapproprier tout un tas de conséquences, en fait. Le mode de vie qu'on vit, c'est un mode d'habiter, c'est un mode, on donne un certain exemple, hein, donc en habitant comme on habite, on donne un signe, on signale aux autres qu'on habite d'une certaine façon. Et on leur signale soit qu'ils sont les bienvenus, qu'il y a de la place pour eux, soit on leur signale que non, il n'y a pas de place pour eux, ce qui n'est pas vraiment très civilisé si on prend le sens, la racine du mot civilisation. Donc autosuffisance, relation à la terre, bon ça c'est un peu évident, la conscience, la vie spirituelle, donc travailler la conscience, c'est un truc que je faisais pas mal avec les étudiants, juste pour montrer à quel point on peut être complètement pris par notre esprit et qui raciocine et puis qui... notre esprit conceptuel qui est toujours en train de penser et qu'on ne peut jamais arrêter, je leur disais, levez le bras, tous levez le bras, et après je leur disais, arrêtez de penser. Alors évidemment, ils constataient tous qu'ils n'y arrivaient pas à arrêter de penser. Donc l'esprit qu'on croit contrôler si bien, c'est peut-être lui qui nous contrôle plutôt. Et donc il y a tout un tas aussi de techniques pour essayer de faire le vide un petit peu et revenir... parce que l'esprit fournit en permanence des solutions toutes faites à tous les problèmes. Hein, c'est comme disait l'anthropologue Mary Douglas, dans cette situation-là, les institutions pensent pour nous. Nous ne pensons plus dans ce moment-là. Nous sommes pensés par tout un tas d'institutions, l'éducation, le milieu et toutes ces choses-là. Cinquième point, révision des choix de consommation. Ça, j'en ai déjà parlé. Sixième, les activités qui favorisent la vie intérieure. Septième, la non-violence. Huitième, les choix conscients et réfléchis plutôt qu'impulsifs. Alors, ça veut dire aussi une certaine hygiène de vie quand on va dans un supermarché, on n'achète que ce qu'on a prévu. Alors, bon, moi, je fais tout le temps, mais je connais plein de gens qui, quand ils vont dans un supermarché, ressortent avec plein de trucs auxquels ils n'avaient pas pensé. Moi, ça ne m'arrive jamais. J'y pense. Alors, je me dis, ah oui, tiens, mais ça, je vais y réfléchir. Et si j'en ai besoin, dans 2 semaines, je l'achèterai, pas avant. En général, je n'achète pas. Mais voilà. Et puis, neuvième, c'est approche globale de la santé. Hein. Alors, tous ces mouvements ici, c'est les mouvements que vous avez peut-être entendu parler, les colibris. Parce que vous avez vu le film Demain, d'un des fondateurs, enfin, d'un des animateurs des colibris. 500 000 entrées. C'est un film qui cartonne, là aussi, c'est un signe. Parce que c'est très décroissant, enfin je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'ils sont très décroissants. Et 500 000 entrées, c'est assez inespéré. Parce que ce qui était prévu, enfin, le budget se met de 500 000 euros, je crois, hein, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pratiquement plus d'entrées que ce que le film a coûté. C'est vraiment un très petit budget. Et l'idée, c'est de dire, bon, on passe 5 minutes à faire le constat de ce qui ne va pas, et tout le reste, c'est sur les alternatives qui donnent envie de changer de vie. Et ça, c'est un peu la logique des colibris. C'est de dire, bon, on ne fait pas les grands débats, mais nous, on montre ce qui va, on montre les alternatives, et on essaye d'entraîner par l'action, principalement. Hein. Avec l'idée, je ne sais pas si vous connaissez la fable du colibri. Pourquoi ça s'appelle les colibris? Non. Qui est-ce qui connaît? Alors, il y a plusieurs versions, mais enfin, une des versions, parce que je ne sais plus si c'est en Amérique latine ou en Afrique en particulier. Mais l'idée, c'est qu'il y a un grand feu dans la savane ou dans la forêt, et puis tous les grands animaux s'en vont, fuient devant le feu, et puis il y a un colibri, qui, une goutte par une goutte, qui, c'est le plus petit oiseau de la forêt ou de la savane, une goutte par une goutte, essaye d'éteindre l'incendie. Alors, les grands animaux lui disent, l'éléphant, tout ça, lui disent, t'es vraiment ridicule, tu vois pas la taille de l'incendie, t'es tout petit, ça sert à rien ce que tu fais. Et le colibri lui répond, oui, mais je fais ma part. Et la logique du colibri, c'est ça, c'est de dire, on peut pas tout résoudre. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut faire sa part, et en plus, il vaut mieux être partie de la solution plutôt que partie du problème. Donc c'est aussi une dynamique qui est portée par l'avenir, par l'espoir, plutôt qu'une dynamique, on va dire, un peu, je dirais, cynique. Hein. Qu'est-ce que c'est que le cynisme? Le cynisme, c'est de vivre dans un monde comme si on n'y était pas. On commente, ah ouais, l'humanité est trop bête, elle va s'autodétruire. Oui, mais sauf qu'on fait partie de l'humanité, peut-être. Donc le raisonnement de dire l'humanité va s'autodétruire, ça veut dire je vais m'autodétruire. Mais non, en fait, c'est bête ce que je dis. Le cynisme n'est pas une position qu'on peut assumer jusqu'au bout. Le cynisme, c'est une posture. Hein, c'est ce que Sartre appelait la mauvaise foi. Si on est sur le mode de l'authenticité, si on se laisse interpeller par tous ces enjeux-là, si on essaye de les penser vraiment honnêtement, c'est-à-dire sans parti pris, on dit juste, je vais regarder. Et après, on voit ce que ça provoque en nous, mais inévitablement, on va réagir sur ce que Heidegger appelle le mode de l'authenticité. L'authenticité, ce que dit Ernst Bloch, pardon, c'est notre être véritable. Notre être véritable, c'est l'être authentique. Et l'être authentique, c'est ce que disait Lacan, c'est ne pas céder sur son désir. Je vous remercie.